Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Ben oui, en ce 10 mai, mardi 10 mai 2022. À la suite des informés, Adil Farkat, que vous pouvez retrouver dès demain, oui, à partir de 19h.
19h, comme tous les jours.
Comme tous les jours, c'est bien ça, voilà. On ne sait pas qui me souffle à l'oreille, voilà, les petits propos. Mais enfin, bah, en ce début d'émission, qu'est-ce qu'on va aborder dans cette émission de ce mardi soir? Nous allons entamer une page, allez, une sacrée page concernant l'Olympique Lyonnais. Quel avenir pour les Lyonnais, justement? Le football anglais avec la Liverpool, excusez-moi. Liverpool qui n'a plus le droit à l'erreur. Eh oui, on verra bien les hommes de Jürgen Klopp et on aura aussi un mot concernant l'Espagne avec Alcaraz, le nouveau boss du tennis mondial. Juste après, Roger Federer ou encore, j'allais dire Joe Wilfried Tsonga, mais non, malheureusement, c'était plutôt Novak Djokovic. Pour réagir tout au long de cette émission, vous pouvez nous appeler, composer le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On accueille ce soir pour la première fois Michel de Longeril, expert international en cardiologie et nutritionniste, voilà, qui parlera aussi avec nous de sport et sans oublier ce soir le livre à gagner. Eh ben, ouais, on va parler du golf. Eh oui, le golf, tout un art aux éditions Solar. Rien de plus simple pour le remporter, le 01 53 48 3000. Le débat du jour, on le rappelle rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Olympique Lyonnais, départ de Juninho, les choix d'Olas, violence des supporters, la flatulence de Marcelo, l'avenir de Peter Bosz et aussi quel avenir pour l'Olympique suite à cette saison ratée. Rien de plus simple, vous nous appelez le 01 53 48 3000. Allez, on va démarrer cette émission avec le JT Sport qui nous a été finement préparé par Diazon.
Time Sport.
Oui, bonsoir à tous. On démarre ce JT du mardi par le premier gros coup du mercato 2022-2023 avec la signature officielle d'Erling Haaland en faveur de Manchester City contre une somme avoisinant les 60 millions d'euros hors prime. Le Norvégien va donc disputer son dernier match sous les couleurs du Borussia Dortmund ce samedi en Bundesliga après deux saisons et demie passées chez les jaunes et noirs. Et le jeu des chaises musicales continue puisque le jeune Allemand Karim Adeyemi va lui débarquer à Dortmund en provenance de Salzbourg contre la somme de 30 millions d'euros hors bonus d'ici le 1er juin prochain. On finit avec le football, avec le prochain Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. Et c'est Berlin qui accueillera la finale de la compétition. L'UEFA a communiqué la nouvelle cet après-midi sur son site officiel. On finit ces infos avec du basket. En NBA, Nikola Jokic a été élu MVP de la saison régulière. Le pivot serbe des Nuggets remporte la distinction pour la deuxième année consécutive. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal Nedman et toute l'équipe Time Sport.
Je veux juste... Un grand merci, justement, Diazon. Et ce soir, on sera en compagnie du coach Tolé. Ah oui, alors il est là, il est avec nous.
Je disais.
Ah, oui. Ah ben oui, je disais. Voilà. This is la peste aussi.
Parce que on parle de la prononciation de la langue française.
Ouais.
Mais après, chacun, il peut prononcer comme il veut. L'essentiel, c'est de faire comprendre.
Ouais, là, tu abuses un peu, là.
Si.
Ouais, reste cool, Yacine.
Je suis cool.
Ouais.
J'ai toujours été cool.
Ah ben c'est vrai. Les habillés sont bien là aussi.
Yannis, il confirme.
Yannis, ce soir, c'est notre réalisateur. Eh oui, rien de plus simple. Vous pouvez réagir, parler avec Yannis, justement, le 01 53 48 3000. Voilà, vous composez le numéro du standard. Il y a Giovanni que vous pouvez retrouver d'ici 22h avec Vanessa. Voilà, rien de plus simple. Sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. Le premier sujet avec ce débat du jour. On y va.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Ah oui, justement, il va se passer des choses ce soir du côté de Lyon. Le match des zéros. Et oui, après celui du Stade Vélodrome à Marseille, en octobre, on a pu apercevoir Abdel ou encore Jouba. L'Olympique Lyonnais et l'UNICEF organisent la deuxième édition. Et oui, de ce match des héros au profit des enfants ukrainiens et des actions d'OL Fondation du côté du Groupama Stadium. Allez, avec moi, on a Yacine. Comme je le disais, on va être rejoint par le coach Tolé, toujours dans son train. Et sans oublier Samir qui fait son grand retour. Samir, comment ça va, Samir?
Bah ça va super, content d'être avec vous et puis pressé de d'échanger avec les auditeurs et puis de parler Olympique Lyonnais. Il y a de quoi dire sur Lyon.
Justement, l'Olympique Lyonnais, Yacine, tant de choses à dire. On en parlait avec Boula, avec Abel, avec le coach Tolé. C'est vrai, ça a été un peu une saison mitigée, si je peux me permettre. Ouais, c'était pas trop ça, quoi.
Mitigée, je sais pas. Mitigée, après. Après, certes, Lyon n'est pas à sa place comme d'habitude. Si on remontait à une dizaine d'années en arrière, ils avaient dominé le football français pendant quand même 6 ou 7 ans où ils avaient gagné le championnat sans discontinuité. Et au jour d'aujourd'hui, il y a le PSG. Donc le PSG, il est au-dessus de tout le monde. Et Lyon, ça fait 3-4 ans que ça a l'impression que ça fait des vagues. Cette année, ça a été, je pense, l'une des... Pour le Lyon, le grand Lyon...
Des années 2000.
Des années 2000. Aujourd'hui, ils sont classés 8e.
Oui.
C'est loin du tout de l'investissement qu'ils ont fait. Avant l'arrivée de Juninho, on avait l'impression que Lyon avait trouvé un petit peu sa part, le rare, celui qui pouvait leur servir, on va dire, de passerelle entre le club et les pépites brésiliennes. Et on se rend compte après 2 ans que pratiquement rien n'a été fait. C'est au contraire, Lyon a perdu de très 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 bons joueurs issus de la formation. Quand on pense à un immense talent, en la personne d'Emil Guiri, qui est parti pour rien du tout. On se poserait la question, qu'est-ce qu'elle a fait la cellule de recrutement de Lyon depuis l'arrivée de Juninho. Et pourtant, le centre de formation est connu pour produire de très 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 bons joueurs de très bonne qualité, à l'image de Karim Benzema aujourd'hui, qui est pratiquement sans aucune ambiguïté le meilleur joueur de la planète.
Ouais.
Quand on a des joueurs à l'image de Ryan Cherki qui n'arrive pas du tout à sortir, alors que on l'a toujours présenté comme un génie. Quand on a le milieu de terrain de Lyon d'origine algérienne.
Aouar,
on a l'impression qu'il est sur une pente descendante depuis 2 saisons. Donc là, on se poserait des questions. Je pense que beaucoup de choses vont se passer pendant cette intersaison tout le monde. Il va y avoir un changement de façon.
Marcelo écarté à cause de flatulence justement dans le vestiaire.
Ouais, c'est incroyable. Ça arrive. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans un vestiaire. On a eu les échanges
comportement déplacé
avec Toko Ekambi, alors que c'est l'un des rares joueurs à avoir peut-être tiré son épingle du jeu dans cet effectif lyonnais. Il a été toujours présent dans les moments difficiles. Il a marqué quand même des buts très 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 importants. Bien sûr, ça me fait encore mal de penser à lui parce que il nous a fait mal à Alger, hein.
Oui.
C'est le football.
C'est le football.
Mais aujourd'hui, je pense que Jean-Michel Aulas, il est dans une position où il doit prendre une décision, et rapidement, parce que le temps nous presse.
Oui, le temps nous presse, c'est ça.
Le temps mise presse ou le temps nous presse.
Ouais, comme tu veux, il n'y a pas de problème. Samir, réaction concernant les Lyonnais ce soir, assez compliqué saison.
Quand tu es supporter lyonnais, comme tu l'as dit, ce soir il y a le match des héros, ils vont avoir beaucoup de nostalgie, les supporters lyonnais, en voyant... Des têtes qui les ont fait rêver il y a encore pas si longtemps que ça. Comme le disait Yacine, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas l'Olympique Lyonnais qu'on a vu il y a une certaine époque.
Et là, il y a même 5 ans en arrière.
Et là, la complication en fait de toute la complexité du travail de Jean-Michel Aulas, ça va être essayer justement de trouver cet équilibre où j'ai plus mon équipe de stars qui gagne le championnat tous les ans à l'époque. Je suis parti sur un délire où je vais justement former un petit peu que des pépites et essayer de faire quelque chose avec. Comme le dit Yacine, forcément, finalement, ça a pas si bien marché que ça. Et aujourd'hui, il faut que lui essaie de trouver la bonne formule avec les jeunes, avec les recrues qu'il fait, parce qu'il en a quand même fait, malgré tout, il a quand même fait des recrues. Puis aujourd'hui, maintenant, on est en fin de saison, donc on peut dire qu'il y a certaines recrues, finalement, qui n'ont pas satisfait, finalement, et point barre.
À commencer par le coach.
Et j'allais en venir, Yacine, justement, et j'allais parler du coach. J'allais dire, forcément, dans les décisions à prendre par Jean-Michel Aulas, forcément, il va y avoir cette histoire de coach, on sait pas tellement ce qui se passe entre le coach et le vestiaire. Des fois on a l'impression que ça marche, comme la victoire au Vélodrome.
Son sort est acté, apparemment. On parle avec insistance de l'arrivée imminente de Galtier à Lyon.
Ouais, Galtier,
c'est une question
il
de
sera le bon
détail apparemment.
Ouais. Alors j'ai pas d'infos,
Mourad nous dit non pour le moment, il écoute l'émission.
J'ai pas d'infos, mais je trouverais ça incohérent, une arrivée de Galtier après une saison à Nice. Je trouverais ça totalement incohérent.
Maturé peut-être.
Yacine, peut-être que tu as une info, mais j'y crois pas une seconde.
Il en a tout le temps.
Dans le sens où tu fais une saison à... En plus, Galtier, c'est quelqu'un qui fait vraiment des contrats de 4-5 ans à chaque fois.
Ouais, mais que ce soit Saint-Etienne, Nice... ça peut arriver quand un club comme Lyon, ça ne se refuse pas. Hein. Pour lui, je pense qu'il a envie de
ça parlait
autre
déjà avant Nice, ça parlait déjà de lui. Hein,
Après, tout le monde sait que les négociations avec Jean-Michel Aulas ne sont pas... Il y a quelques années, il a eu au téléphone Vahid Halilhodžić, ils ont déjeuné ensemble et tout a été acté. Ouais. Et en dernière minute, ouais. Et le téléphone de Vahid n'a pas sonné. Mmh. Pour vous dire que c'est très compliqué les négociations avec.
Mais pour en revenir aux sportifs sur l'Olympique lyonnais, c'est une certitude. Si aujourd'hui des supporters lyonnais nous écoutent, ils ne peuvent pas aujourd'hui être satisfaits de ce que le club a proposé cette saison. Forcément, aujourd'hui, tu as le Paris Saint-Germain, tu as l'Olympique de Marseille, tu as l'Olympique lyonnais qui va avec. Et aujourd'hui, sur cette saison, on n'a pas trop parlé en bien de l'Olympique lyonnais.
Mais est-ce que aussi,
on a eu des petites fulgurances de certains joueurs, mais voilà.
Mais est-ce qu'aussi que le monde médiatique ou le monde.
Que tu en fais partie
Ils ont fait rêver ou ils ont vendu du rêve au grand public pour dire que Lyon pouvait rivaliser un tant soit peu avec le PSG. Alors quand on voit la réalité. On a des questions à se poser. Hein.
Non, je pense.
Alors, Samir, allez-y, nous tous, Samir.
Ils sont 8e du classement.
Hein. S'informer peut-être sur le dossier lyonnais. Vous nous appelez le 0153 43
000. Ils peuvent même pas faire les barrages pour le.
L'Europa League.
Ouais, l'Europa League, ouais.
Mais de toute façon, le classement répond à nos questions, tout simplement. Mais l'Olympique lyonnais, tu t'appuies sur ce qui s'est passé sur les 20 dernières années. Tu vois, tu t'appuies pas sur ce qui s'est passé cette saison. Moi, personnellement, il n'y a aucun média qui m'a fait rêver cette
Bien
saison
sûr.
Sur l'Olympique Lyonnais. Il n'y a aucun média qui m'a menti cette saison sur l'Olympique Lyonnais.
Je connais
un minimum le football.
Alors
tu vois qu'il y a un nouveau coach, tu vois qu'il y a les recrues qui ont été faites, tu vois que tu vas faire un petit mix entre les recrues, les anciens et puis les jeunes du centre de formation. Forcément, moi, j'avais pas tant d'attentes vis-à-vis de l'Olympique Lyonnais cette saison, réellement. Donc moi, les médias, ils m'ont pas trop vendu du rêve. Mais Lyon, ça reste un club important du football français, de Ligue 1. Et c'est là où, quand t'es supporter lyonnais, comme quand t'es supporter marseillais ou parisien, tu veux que ton club, toutes les saisons, quand tu t'appelles Lyon, Paris, Marseille, tu veux finir dans le trio, saisons.
À un moment donné, Jean-Michel Aulas, il devrait mettre de l'eau dans son vin.
Et pourquoi
Le départ de Bernard Lacombe, qui était, on va dire, l'homme de l'ombre de la grande épopée lyonnaise. Ça, on n'en parle pas. Gérald Batik, qui est parti à Angers, lui aussi, qui était quand même très très important dans le dispositif lyonnais. Il y a beaucoup de noms, des gens qui étaient à la formation, ils ont tout fait exploser.
Tout ce que tu es en train de dire, ça fait un 8e du championnat de France.
Ouais, c'est c'est 8e du championnat de France, mais quand on voit le budget, on se pose des questions. Hein.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est assez un échec. À un moment donné, il faut que lui-même il se pose et dit oui, j'ai échoué. Il veut pas l'avouer. Ses choix ont été complètement. Ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'il fait des mauvais choix.
Ouais, peut-être
que même c'est le moment pour lui de décrocher, de tirer sa révérence.
Justement, le coach Tolé, il en pense quoi concernant ses Lyonnais cette saison?
Pas le bon moment pour lui pour dire.
Pour partir.
Ah oui.
Ouais, peut-être. Le coach Tolé, il est avec nous.
Ouais, voilà. On verra si tweet dans 5 minutes. Hein.
Parce
qu'il est capable.
Hein. Et on nous écoute beaucoup.
S'il nous écoute, il est capable tout de suite.
La région lyonnaise,
c'est-à-dire je suis là.
Vallée du Rhône écoute beaucoup BRFM. Oui, le coach Tolé, bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais Bruno Genesio a été plutôt... on se rend compte qu'il était performant, alors que rarement un coach lyonnais sur les dernières années a été autant décrié. Il confirme du côté du stade Rennais. Je crois qu'il a fini à plusieurs reprises 2e ou 3e de Ligue 1. Il a réussi à faire sortir les derniers.
Il a gagné la Coupe de France
de Lyon. Et depuis, on se rend compte que au-delà du club qui est un petit peu en feu et je m'inquiète un petit peu pour l'avenir. Toujours est-il que Genesio a dû faire du très bon travail là où.
Et d'accord, le réalisateur Yanis, ouais.
Et même le travail que fait Gérald Batik là, à Angers.
Aussi.
Parce qu'on peut dire que même si à Angers cette année ça n'a pas été les grands résultats, mais quand on voit la qualité du jeu de cette équipe angevine, moi personnellement, j'aurais pris Gérald Batik, j'aurais pas pris Peter Bosz, tout simplement. C'est un entraîneur avec un effectif.
On termine avec Lyon.
Mais il a quelqu'un qui n'a pas peur. il y va, il joue. Et on a le plaisir de voir cette équipe.
On termine avec Lyon, on traverse la Méditerranée, on arrive du côté du Maroc. Les Lions de l'Atlas, grosse peut-être surprise en vue pour l'avenir d'un certain Vahid Halilhodžić. Eh oui, le coach, justement, le sélectionneur marocain pourrait finalement rester à la tête de cette sélection. Alors, Samir. Et après, on va terminer avec Yacine, le coach étoilé.
Si je peux me permettre, et si tous les Marocains nous écoutent, évidemment que je sais qu'il a été mais tellement critiqué parce que évidemment que les Marocains voulaient du beau jeu, voulaient vraiment voir quelque chose à l'identité justement qui est une identité qui leur ressemble et voulaient voir Vahid partir aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui peut s'entendre et se comprendre. Par contre. Quand tu vois un sélectionneur qui est venu et qui a fait les matchs, mais on va dire les matchs les plus relous à jouer, c'est-à-dire emmener ton pays en Coupe du Monde, aller faire ce qu'il y a de plus dur, quoi, j'ai envie de te dire, et que quelqu'un d'autre vienne en fait prendre, on va dire, tu vois, le cadeau, quoi, le cadeau, c'est d'aller en Coupe du Monde, et qu'un sélectionneur arrive et récupère ça. Moi, je trouve ça un petit peu, je trouve ça pas super dans l'éthique. Je trouverais ça pas top, en tout cas, de la part de la fédération marocaine, que de se séparer de Vahid de cette manière-là. Alors dans ces cas-là, ils auraient dû le lâcher avant, pendant les phases éliminatoires, ce qu'ils veulent. Oui. Maintenant qu'il les a qualifiés, laisse-le continuer à préparer son groupe. Il connaît son groupe et puis je pense que celui qui mérite d'être sélectionneur pendant la Coupe du Monde, c'est Vahid. Donc s'il reste, justement. En tout cas moi, j'approuve ce.
On
ce
a des genre. Réactions, la bise les frérots. Et oui, c'est Saïd qui nous écoute, un auditeur, un fervent auditeur de Beurre FM. Il a raison, Samir, complètement d'accord avec toi. On est pour le Vahid Ball. Voilà, ça au moins c'est dit. Yacine, on va l'écouter concernant le coach Vahid.
Ça aurait été très grave pour lui, hein. Ça aurait été la troisième fois qu'il se fait éjecter d'une sélection qu'il qualifie au mondial. Ça a été fait avec la Côte d'Ivoire, avec le Japon. Et si ça se reproduit avec le Maroc, je pense pour lui, ça serait une catastrophe pour lui, hein, sur le plan humain, personnellement. Après, il y a eu ces histoires, avec Ziyech et Mizraoui qu'il a écarté de la sélection pour des faits d'indiscipline. Et aujourd'hui, dans une sélection, il faut savoir définir quelles sont les priorités et les prérogatives d'un sélectionneur. Pour lui, dans son groupe, il croit ou il pense, parce que il a ses propres croyances, c'est connu, Vahid, c'est la gestion à l'ancienne, c'est vraiment une main de fer. Mais à un moment donné, il y a une nouvelle génération de joueurs aussi. Ziyech, quand même, c'est pas des moindres. C'est l'un des meilleurs attaquants aujourd'hui, peut-être de la planète. Mizraoui à son poste aussi. À un moment donné, je pense qu'il y a eu beaucoup de négociations. Il y a eu des intermédiaires. Certainement, ils ont parce que il y a 2-3 jours, on parlait de. Ils ont officialisé avec André Villas-Boas, mais apparemment il y a eu revirement de situation. Bien donc il y a eu des négociations très très certainement serrées. Ouais. Peut-être que ils ont trouvé un terrain d'entente. Il va peut-être faire appel à.
On va savoir, on aura.
Peut-être qu'il a mis un petit peu d'eau dans son vin. Il va. Je sais pas si c'est la nature de Vahid, hein, de s'écraser et de faire des concessions. Mais j'ai des doutes sur tout ça.
À moins
qu'il a eu la carte blanche de la fédération royale marocaine pour mener cette sélection.
On verra bien.
Ah oui, parce que là le potentiel pour aller au moins pour faire un deuxième tour de Coupe du Monde.
On verra bien, Yacine. Oui, le coach Tolé, rapidement.
On t'écoute. Après j'ai pas tous les éléments, mais ça me gêne toujours. Je rejoins ce que dit Samir un petit peu d'avoir un sélectionneur. Quelle que soit la forme, qui s'est qualifié pour le mondial, et t'as un mec qui arrive, qui reçoit la lumière. Alors après, il y a différentes raisons, hein, à ça, hein, qu'on ne maîtrise pas, mais moi je trouve ça
après,
dommage.
Après, un club, une sélection, c'est complètement différent.
Et ça arrive un peu trop souvent auprès de nos chers sélections africaines.
Je pense que ça n'a pas été le cas. Le Japon, quand ils l'ont viré, Manu Militari, c'est pas une sélection africaine.
En général, en Afrique, ils aiment bien.
Je pense que ce qui peut arriver de mieux pour la sélection, pour les joueurs, pour du coup la Coupe du Monde, pour le sélectionneur, pour les supporters marocains, c'est de garder Vahid et de récupérer Mazraoui et Ziyech, c'est ce qui pourrait se passer de mieux. Et je pense que ça va être le travail incroyable du président de la fédération marocaine, justement, d'essayer de trouver un terrain d'entente entre justement ces deux parties-là. Et pour moi, il y a encore un petit peu de temps, il y a encore un petit peu de mois avant la Coupe du Monde. Je pense que si ces deux joueurs aiment à fond le Maroc, ils vont mettre de l'eau de leur vin, comme tu dis, et Vahid aussi va le faire. Parce qu'il y a un intérêt commun, ça va être d'emmener la sélection le plus loin possible. Je pense qu'on a encore un peu de temps d'ici là. Et je pense que ça va être le travail prioritaire du président de la fédération.
Il y a un détail qu'il ne faut pas négliger dans cette sélection.
Alors c'est quoi ?
Il y a eu aussi le départ, parce que beaucoup de gens ont parlé de la mise à l'écart de Mustapha Hadji de la sélection, alors que Mustapha Hadji n'est pas parti de la sélection. Je vais vous dire peut-être la raison principale de son départ de la sélection marocaine. C'est un désaccord avec Vaïd sur un déplacement qu'elle avait fait au Sénégal pour faire le match amical pour l'inauguration du nouveau stade de Dakar. Vaïd n'a pas apprécié que Mustapha Hadji se déplace sans son avis. Et voilà, après Mustapha Hadji reste le seul ballon d'or marocain, ça reste une grande star dans son pays.
Incroyable.
Et proche des cercles des décideurs aussi. Donc je pense que tout ça va faire.
Merci.
Ils se sont tous mis autour d'une table. Je pense que si Vaïd reste, peut-être il y aura le retour de Mustapha Hadji pour le mondial, parce que c'est lui qui servait d'intermédiaire entre ces joueurs, on va dire, dissidents et Vaïd Alijouz. Voilà, donc il avait expliqué dans une interview qu'il avait accordée à une télé marocaine. Il leur dit, moi, comme il est d'origine berbère, la plupart, Mezraoui et Ziyech, ils parlent pas un mot d'arabe. Donc il était l'intermédiaire. Donc je pense qu'ils ont trouvé une solution, et tant mieux. Et ça va être pour le
bien. Avec ton plaisir, cette petite histoire de Yacine, notre patriarche, justement. Vous restez avec nous, avec le coach Toulé, avec Samir et aussi Yacine. On revient rapidement avec notre invité de ce soir, qui n'est autre que Michel de Lorgeril.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie du coach Toulé, de Yacine et sans oublier Samir. Pour réagir avec nous, le 01 53 48 3000. Voilà, on vous rappelle ce numéro du standard. Oui, Yacine.
Il faut toujours prévoir la sonnerie de train quand il arrive en gare, parce que le train de Claude Toulé vient d'arriver. Et on l'a pas entendu.
Il vient de très très loin. Il vient de très très loin, le train de coach Toulé, hein.
J'étais du côté de Strasbourg pour filer.
Ben là, c'était pas mal. Strasbourg nous écoute ce soir.
Allez, voilà. Nos amis strasbourgeois qu'on salue.
On aime bien.
Qui ont fait une très bonne saison d'ailleurs.
Les Messins aussi nous écoutent.
Très belle ville.
Les Messins, malheureusement.
Ah, la région, elle est sympa là-bas aussi. Les Alpes, il y a Mourad qui nous écoute, voilà, là-bas.
Mourad, il est pas là-bas.
Terre de la Provence.
Mourad, il est du côté de pas loin de la Provence.
Ah, ça va, on arrête.
Il a mangé du zizitoun de la Provence.
Ah ben ça, c'est pas mal.
On va le dire avec l'accent provençal.
Ah ben c'est bon.
Zizitoun de la Provence.
Le Provenzo.
Voilà.
Allez, on va s'attarder sur l'invité de ce soir avec Yanis, notre réalisateur. C'est parti.
Time Sport. The special one.
Michel de Lorgeril, docteur en médecine, chercheur au CNRS, aussi expert international en cardiologie, nutrition, membre aussi de la Société européenne de cardiologie. Bonsoir, professeur. Comment allez-vous? Docteur.
Bonsoir, je vais très bien, merci beaucoup.
Justement, on aimerait s'attarder avec vous pour la première fois sur notre antenne dans cette émission sport, docteur, sur tout simplement cette prévention que l'on aborde au sein même des sportifs, mais au sein même de la population concernant les infarctus et aussi les AVC. Malheureusement, voilà, on en comptabilise chaque année beaucoup trop. Vous sortez ce magnifique livre, Comment échapper à l'infarctus et à l'AVC. Et nous, on aimerait vraiment savoir aujourd'hui, est-ce que la prévention y est? Et est-ce que le gouvernement prend tout cela au sérieux, quoi?
Alors, si vous posez la question aujourd'hui, c'est parce que ces derniers temps, à cause de la pandémie Covid et à cause de la vaccination massive de tous les âges, on a eu plus que d'habitude des accidents cardiovasculaires chez les sportifs. Et tout d'un coup, cette question qui ne date pas d'aujourd'hui est arrivée sur dans les médias.
Oui.
On en a parlé. Voilà. Mais c'est pas un problème récent. Je peux pas aujourd'hui vous dire si le virus lui-même ou si les vaccins anti-Covid jouent un rôle majeur dans l'épidémie actuelle de d'infarctus, hein. C'est surtout des infarctus et des embolies pulmonaires qui sont chez les sportifs en ce moment, plus que des AVC. Mais on peut, si vous voulez maintenant, essayer de regarder le paysage chronique, hein, connue de longue date, ouais, concernant les accidents cardiovasculaires au cours de l'activité sportive.
Alors, si on peut juste baisser l'écho, vous savez, peut-être vous écoutez en même temps le live de Beurre FM. Voilà, là, comme ça sera super pour tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Docteur Michel Delorgeil, on a eu pas mal de réactions aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. On a eu pas mal de messages. Et tout simplement, il y a une question qui nous est revenue souvent. On veut savoir comment échapper à l'AVC, justement. C'est Riyad qui nous posait cette question.
Alors, comment au cours de l'activité physique, vous voulez dire ?
Activité physique, mais aussi de la vie de tous les jours. Ça pourra aussi donner voilà, nombre d'infos et aussi savoir comment on pourrait éviter pour les ménages, pour voilà, les moins jeunes et les plus jeunes.
Alors, l'accident vasculaire cérébral est une complication cardiovasculaire, évidemment, qui survient plutôt chez les personnes âgées. Et il y en a de deux types, soit on fait des hémorragies cérébrales,
oui,
soit on fait des thromboses, des caillots dans les artères du cerveau. Donc ce sont deux maladies totalement différentes. Les hémorragies cérébrales arrivent le plus fréquemment chez des personnes jeunes, plus jeunes que les accidents vasculaires cérébraux avec des caillots dans les artères qui surviennent plutôt chez les personnes âgées. Alors, ouais, pour savoir comment on peut y échapper, ouais, ben, il faut en connaître les causes. Alors, on va laisser de côté les hémorragies cérébrales parce que c'est un cas très particulier. En général, ce sont des anomalies vasculaires.
Oui. Ouais.
Qu'on ne sait pas détecter, voilà, donc on est toujours très très surpris par une hémorragie cérébrale. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des hémorragies cérébrales qui surviennent chez des gens qui sont traités avec des médicaments anticoagulants. Bon, mais vous voyez, c'est des cas particuliers.
Ouais, c'est ça.
Dès qu'un médecin prescrit un traitement anticoagulant, il sait qu'il y a le risque hémorragique, et par conséquent, il ne maintient ce traitement que parce qu'il pense que le risque de caillot est plus important que le risque d'hémorragie.
Vous savez, Riyad, je vous laisse poursuivre. Allez-y, docteur.
Oui, mais alors, les plus fréquents des accidents vasculaires cérébraux, ce sont, oui, les caillots dans les artères. Et ceux-là, généralement, sont dus à des embolies. C'est-à-dire des caillots qui se forment soit dans les artères carotides,
oui,
soit qui se forment dans le cœur, et qui sont expédiés dans le cerveau par les battements cardiaques. Donc on sait identifier les personnes qui sont à risque d'envoyer des caillots de sang dans le cerveau, soit à partir du cœur, soit à partir des artères carotides. Les artères carotides sont les artères qui sont, c'est les grosses artères qu'on a dans le cou,
oui,
hein, et dont on peut palper le pouls simplement en mettant la main à côté de l'œsophage. Donc ça, on sait comment faire. Mais quelquefois, on est pris par surprise.
Oui, et justement.
Et malheureusement, on est pris au dépourvu.
Oui.
Mais quelquefois, on a des alertes.
Oui.
Et quand il y a des alertes, oui, alors on a tout un panel d'investigations qui nous permettent d'identifier le risque et d'intervenir pour empêcher l'accident vasculaire cérébral.
Bien sûr, et c'est ce que l'on apprend justement dans votre magnifique bouquin « Échapper à l'infarctus et à l'AVC ». C'est bien ça, docteur Michel Delorgeril. Oui, Yacine.
C'est ce que j'explique dans le livre.
Oui, c'est ce que vous expliquez pour les familles, pour les sportifs et tout le monde, quoi.
Oui, Yacine, allez. Pour les sportifs, c'est autre chose.
Ah, c'est autre chose. On va revenir avec le coach de Tolé, avec Samir. Oui, Yacine, une réaction avec le docteur.
Il est aussi spécialiste, il est diététicien aussi. Donc, est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas manger,
ouais,
pour éviter ce genre de problème ? Ou qu'est-ce qu'il faut manger,
ouais,
pour éviter ce genre de problème ?
Alors, je reviens, il y a la question de l'hémorragie cérébrale,
ouais,
qu'on va laisser de côté, parce qu'il n'y a pas de données scientifiques qui permettent d'éviter l'hémorragie cérébrale. Là, je vous l'ai dit, soit on a une anomalie vasculaire et puis malheureusement un vaisseau éclate dans le cerveau et puis il y a une hémorragie, soit on est traité avec des médicaments anticoagulants et malheureusement les médecins pensent que c'est indispensable chez ce patient-là et quelquefois il y a une complication qui survient. Alors je reviens aux accidents vasculaires cérébraux dus à des caillots.
Oui.
Là, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, au point de vue nutritionnel, On a beaucoup travaillé au cours des 20-30 dernières années et on sait comment il faut manger. Alors, non pas pour mettre le risque à zéro, hein, ça, ça n'existe pas en médecine, mais pour diminuer de manière très significative le risque d'AVC. Alors, c'est ce qu'on appelle la diète méditerranéenne ou le régime méditerranéen,
oui. Hein,
qui a été décrit dans les années 70-80. Et nous, de nos travaux, on a pu montrer qu'on pouvait le moderniser, le rendre encore plus efficace. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on sait quels sont les conseils nutritionnels à donner aux familles et aux patients à risque d'accident vasculaire cérébral pour diminuer le plus possible le risque d'accident vasculaire cérébral.
Peut-être une réaction avec Samir, notre consultant, docteur.
Oui, bonsoir. Dans nos émissions, on parle souvent forcément de football et de sportifs de haut niveau. Et moi, j'avais envie de m'intéresser en fait à... Aujourd'hui, les sportifs sont toujours dans un état de stress très élevé, toujours dans un niveau de compétition élevé, tous les jours. Et j'ai envie de savoir aujourd'hui, est-ce que l'état de stress, d'anxiété et d'angoisse peut influer en fait sur le sportif de haut niveau, tout simplement ?
Oui, très bonne question.
Oui, c'est une excellente question, mais je ne pense pas que le niveau de stress qui est lié à l'activité physique, à l'activité sportive, hein, parce que vous parlez de sport.
Oui,
là,
oui.
Donc
oui.
C'est deux choses différentes. Hein. Il y a l'activité physique que l'on recommande en général pour les familles.
Exactement.
Hein, qui est le contraire de la sédentarité. Et puis, il y a l'activité sportive qui est un entraînement. Et ça, c'est tout autre domaine. Alors, parmi les sportifs qui peuvent faire, non pas des accidents vasculaires cérébraux, ça c'est très très rare chez les sportifs, ce que l'on craint le plus chez les sportifs, c'est les infarctus. Mmh. Les infarctus du myocarde, c'est, voilà. Alors là, vous avez deux catégories à nouveau. Vous avez la catégorie des plus jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est très, très bien connu dans les clubs... en principe, on fait des investigations, notamment dès que les jeunes gens, après l'adolescence, on va dire ça comme ça, dès qu'on a une perspective professionnelle et puis qu'il y a des entraînements intensifs, alors en principe, les clubs s'adressent à des médecins, à des cardiologues, pour vérifier s'il n'y a pas des anomalies cardiaques chez ces jeunes gens ou ces jeunes filles. C'est la même chose. Ok ? Ça, c'est chez les très jeunes, ce sont les anomalies cardiaques sont les principales causes d'infarctus au cours ou au décours de l'activité physique intense avec entraînement, compétition, etc. Par contre, on a une toute autre catégorie de gens, ce sont les gens qui font du sport, mais pas forcément pour la compétition, qui veulent rester en forme, par exemple. Alors nous, en montagne, on a beaucoup de gens, par exemple, qui font du vélo en montagne, qui font de la randonnée en montagne, qui font de la haute montagne. Alors ça, ce sont des gens qui sont plus âgés, donc qui n'ont pas d'anomalie cardiovasculaire anatomique, hein, congénitale, mais qui ont un mode de vie, en dehors du sport, en dehors de l'activité physique, qui peut les mettre à risque de faire des complications cardiovasculaires. Donc vous voyez, c'est deux domaines complètement différents. Il y a ceux qui sont jeunes... qui font du sport de façon très intense, qui ne risquent pas de faire un infarctus, par exemple, parce qu'ils ont de l'athérosclérose, mais qui peuvent avoir des anomalies anatomiques, des artères coronaires, par exemple. Et qui... Donc ça, on sait le détecter.
Bien sûr.
Voilà. Et puis, il y a le sportif d'âge moyen, ou qui est en train de prendre de l'âge.
Oui.
Et puis alors, il rejoint toute la catégorie des gens qui sont à risque de faire des infarctus à cause de leur mode de vie.
On poursuit rapidement, avant la fin de cette interview avec le docteur.
J'ai entendu tout à l'heure
oui, Yacine.
Alors. Le docteur parler du régime méditerranéen.
Oui.
Quand on sait que les méditerranéens consomment énormément de piquant,
oui.
le piment.
L'huile d'olive aussi.
L'huile d'olive, mais le piment, apparemment, c'est un aliment qui est conseillé pour éviter justement les infarctus.
Alors, dans le régime méditerranéen, on peut distinguer celui qui est au nord de la Méditerranée. Hein, alors, c'est l'Espagne, la France provençale, c'est l'Italie, c'est la Grèce, etc. Et puis, il y a le régime méditerranéen du sud de la Méditerranée, le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, oui. Libye, Égypte, etc. Alors ce sont des régimes assez différents. Et quand on parle de régime méditerranéen cardioprotecteur, on parle plutôt, et c'est ça qui a été étudié surtout, c'est les régimes méditerranéens du nord de la Méditerranée. Hein, c'est que grosso modo Espagne, Italie, Grèce. Et puis, vous avez aussi une autre catégorie de régimes méditerranéens, c'est ceux du Proche-Orient, hein, oui. Vous avez l'Égypte, le Liban, la Syrie, etc. Et c'est aussi différent. Mais ce qui caractérise la diète méditerranéenne cardioprotectrice, c'est le nord de la Méditerranée plutôt. Non pas que le sud de la Méditerranée ne soit pas une zone de faible fréquence des maladies cardiovasculaires, mais ça a été beaucoup moins bien étudié.
Un grand merci, docteur Michel Delorgerie, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. On le rappelle, un magnifique bouquin qu'on peut se procurer, l'ouvrage « Comment échapper à l'infarctus et aussi l'AVC ». Voilà. Oui, rapidement, Yacine.
Est-ce qu'on pourrait avoir son contact pour si on en a besoin pour
mais sur les réseaux sociaux, je crois. C'est bien ça, docteur?
Sur les réseaux sociaux, pas trop.
Pas trop.
C'est pas ma génération.
Ouais, c'est ça. Non, mais peut-être.
Il y a un blog.
Un blog, un WordPress, c'est ça?
Comment?
Oui, un WordPress. C'est michel.delorgeril.info. C'est bien ça?
Blog. Ouais. Et il y a une section sur le blog où on peut poser des questions personnelles, très personnelles. Ouais. Au docteur Delorgerie. Voilà.
Merci d'avoir été.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Tour sur l'antenne de Beurre FM. Eh oui, on parle, c'est ça. Entre les pauses, mais ça fait plaisir. 20h43. Hein. Eh oui, c'était intéressant avec le docteur Delorgeril avec nous, justement, sur l'antenne de Beurre FM pour la première fois. La mission, elle est toujours là jusqu'à 21h. Yanis aussi, avec le coach Tolé, avec Yacine, sans oublier Samir. Allez, on se retourne vers Samir pour prendre le chemin du championnat britannique.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Eh oui, le coach Tolé, il est parti du côté germain. Nous, on part du côté. Voilà. Non, je peux pas le dire.
Ouais, il est parti du côté germain, mais quand on voit comment il est échappé, on a l'impression qu'il arrive de Honolulu. Hein.
Fait plaisir. Peut-être ce soir.
Il y a un microclimat à Strasbourg. Il
fait très chaud. Exactement.
Il fait très beau aussi dans les rues de Paris.
Il a très bien bronzé
à travers la France.
Il a pris des couleurs.
Si tu as bien bronzé, Yacine.
De nature.
À chaque fois du côté
De nature.
Ah oui. Toi, les rayons UV, ça.
Moi, j'ai pas de souci. J'ai pas de souci de rayon X. J'ai pas de souci.
Ok.
Aucun problème.
Guardiola, justement, qui a un goût un peu amer, et Klopp qui lui répond, justement, on a vu pas mal de monde s'embourgeoiser justement sur des réactions faites par les bookmakers, par des supporters, Samir.
Attention à ce que tu dis,
Ouais, comme l'indiquait justement cet entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, qui a déploré peut-être le coach Tolé son soutien populaire en Angleterre pour Liverpool dans la course au titre en Première Ligue. De son côté, c'est vrai que le coach des Reds, Jürgen Klopp, l'Allemand, ne partage pas cette analyse, justement, du technicien des Citizens. Je vis à Liverpool, donc oui, ici, beaucoup de gens veulent que nous gagnions le championnat. C'est vrai, c'est une ville de football.
Bah, c'est clair, avec Guardiola, de toute façon, aujourd'hui, il est dans une déception de défaite de remontada de ce qui lui est arrivé à Madrid. Donc forcément, ses déclarations derrière... Lui, pour qu'il sauve sa saison, faut qu'il essaye de récupérer le titre de Première Ligue. Pour moi, il va l'avoir. Voilà, ouais. Ce n'est que mon avis. Évidemment, tout peut se passer dans le football anglais. Ensuite, moi personnellement, je suis un passionné de Liverpool. J'adore ce club depuis tout petit. Je suis
et juste ce soir, 21h face à Aston Villa.
Et moi, je suis entre Liverpool et City. Je suis mais totalement pour vraiment le. J'espère que Liverpool.
Sachant que les deux villes sont toutes proches. Hein.
En plus,
mais
par contre, j'ai une crainte.
Alors,
une crainte pour Liverpool.
Laquelle?
C'est que là, ils ont 3 points de retard sur City. Ils ont une finale de Cup à jouer, une finale de Ligue des Champions à jouer. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont fait une excellente saison pour peut-être ne rien gagner. Et là, pour moi, ce serait vraiment la catastrophe à Liverpool. Si tu perds en finale contre Chelsea en finale de Cup, si tu perds contre le Real en finale de Ligue des Champions, et pour moi, ils vont pas prendre le titre, Finalement, tu gagnes rien en ayant fait une bonne saison.
Championnat,
et ce serait vraiment dommage. Et du coup, Guardiola s'engouffre avec la communication habituelle en essayant de les déstabiliser justement pour un petit peu les embêter. Donc voilà, c'est une manière à lui d'avoir sa victoire en zone.
Samir,
alors le coach Tolley,
que supporter, j'aimerais quand même le rassurer. Bah c'est un peu le risque, c'est-à-dire que Liverpool, comme tu dis, fait une saison extraordinaire. Moi, j'ai été depuis janvier étonné de les voir vraiment à ce niveau-là. Maintenant, comme quand t'arrives en fin de saison, c'est soit tu gagnes tout, soit tu peux tout échouer. Je ne pense pas que ce serait catastrophique, mais un club comme Liverpool, là où je te rejoins, doit gagner des titres. Le championnat, ça sera difficile. Après, Ligue des Champions et la Cup.
Le championnat, j'y crois pas. La Cup, ils peuvent la prendre. La Ligue des Champions aussi. Le championnat, j'y crois pas.
Non, je trouve assez la Ligue des Champions.
Sur un match, tout peut se passer.
Comme le championnat,
ils l'ont déjà montré.
Même le championnat, ils peuvent le gagner. Tout en sachant que les deux clubs, soit City et soit Liverpool, jouent Wolverhampton. Et c'est aussi un club très proche, c'est-à-dire c'est un derby. Et je pense que c'est ce match-là qui va définir le champion d'Angleterre, parce que c'est un vrai derby. Sur un match, tout est possible. Donc, Wolverhampton aujourd'hui peut faire la décision qui va gagner le championnat d'Angleterre. Comment ils vont aborder les deux matchs. Mais par rapport aux paroles de Guardiola, quand il dit que les gens souhaiteraient que c'est Liverpool qui gagne le titre de la Premier League. Mais c'est Liverpool.
Ouais.
C'est l'histoire, c'est le football. C'est une ville, de par son histoire, c'est une ville ouvrière qui a toujours vécu pour le football et pour les Reds. Son histoire, quand tu rentres dans Phil Road, quand tu vois le musée de Liverpool, tu te poserais la question pourquoi les Anglais ou le monde ou les gens souhaiteraient. Samir, il te dit depuis qu'il est enfant, il est dans la trentaine.
Ouais.
Moi qui le dépasse encore d'une quinzaine d'années.
Ouais.
Quand j'ai la grande équipe de Liverpool avec les Clemens, les Ian Rush, Kevin Keegan, ça nous a fait rêver. C'est le football en lui-même. Donc automatiquement, il y a un penchant. Mais après aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué. Aujourd'hui, pour nous, en Afrique du Nord, ou moi en tant qu'Algérien, il y a Riyad Mahrez qui joue à City. Moi, j'aimerais bien que c'est City qui gagne le titre. Voilà. D'après, il y a des affinités des uns. Aujourd'hui, City, peut-être que aussi des fois présente un football beaucoup plus plaisant que celui de Liverpool. Mais rien n'est tranché sur, parce qu'il reste 3 matchs. Et en Angleterre, qui a dit que Liverpool, ils vont faire un match nul contre Tottenham?
Ouais.
Il y a personne, hein, quand on voit la dynamique de Liverpool, ils se sont qualifiés à la finale de la Ligue des Champions, ils étaient dans une dynamique hyper positive, ils calent devant Tottenham, comme ils peuvent caler contre Chelsea en finale de Coupe, mais c'est ça la magie du football. Après, Guardiola, il a toujours les mots pour se dédouaner par rapport à, parce que la massue qu'il prend sur la tête en demi-finale de Ligue des Champions face au Real. Et je pense qu'il a. On parlait tout à l'heure des AVC et des hémorragies. Et je pense qu'il est passé juste à côté. Quand on voit l'image, quand il est le Real met le deuxième but de Rodrigo, il était comme ça. Le mec, il n'arrivait pas à croire ce qui lui est arrivé. Et c'est ça la magie du football. Donc, tant mieux pour le football anglais. Aujourd'hui, City et Liverpool, ils sont au sommet du football mondial et on va assister à un finish exceptionnel. Voilà, après j'espère pas que Liverpool
au moins,
ils vont avoir un titre, ils le méritent par rapport à la saison qu'ils viennent de faire, aussi par rapport à Sadio Mané qui est aussi en course pour le titre du meilleur joueur du monde ou bien le Ballon d'Or, parce qu'il quand même il réalise une saison exceptionnelle. Donc ça fait un petit peu de piment dans la chourba, dans le.
Ouais, si tu veux, la halila aussi.
Ouais, dans la halila, donc ouais, ça nous fait
quoi pas.
Ça une fin de saison palpitante.
Ouais. Les Hammers, ceux qui reçoivent ces Reds.
Avec le tollé, il est en train il a les yeux rêvés sur l'écran.
Ah ben, je sais pas, il y a le match des héros, c'est vrai, du côté du Groupama Stadium à Lyon.
Je suis en train de penser à plusieurs choses.
Ouais. Marco Van Basten peut-être.
Non, ouais, on parle des héros.
Je restais sur Liverpool.
Elle est un héros.
Un seul héros dans
Samir, il le connaît bien en plus.
Sur le terrain. Donc moi, j'ai découvert le Liverpool de John Barnes, de Robbie Fowler.
Fowler, il était pas mal.
C'est le PSG qu'ils avaient affronté. J'avais été impressionné par l'ambiance. Et pour rejoindre ce que tu dis, c'est que Là où malheureusement les supporters parisiens ont du mal un peu à accepter, c'est que lorsque tu as des clubs populaires qui sont en place depuis, ancrés depuis extrêmement longtemps, et ben il est normal que tu aies une population large qui soit en général pour ces clubs-là. Maintenant il y a
c'est Liverpool de
Bob Paisley aujourd'hui, le football business qui fait partie du décor. City en fait partie, d'autres également. Voilà, et c'est vrai que. Bah c'est vrai que t'as envie de voir Liverpool les titiller, mais bon, si City devra
c'est
aller.
C'est pas gagné. Il y a 3 matchs, il y a 9 points à prendre. C'est pas du tout. En Angleterre, tout est possible. Tout est possible. Quand on voit comment chez Chelsea s'est fait rejoindre contre Wolverhampton, les clubs anglais sont capables de tout et de rien. Ils sont capables de réaliser des choses incroyables, comme ils sont des fois capables de passer complètement à côté. Ce qu'a fait Manchester City, ils ne pouvaient pas garder le résultat à 30 secondes avant la fin, avant une qualification en finale de l'Ligue des Champions.
Parce que tu as des clubs qui ont une véritable âme. Je ne dis pas que City n'en a pas.
Bien sûr.
Mais l'histoire n'est pas la même. Alors,
l'âme de Real de Madrid n'est pas l'âme de City.
Liverpool, c'est un club qui a une véritable...
Bien sûr, il a une âme.
Et pour en revenir, j'étais pas la semaine.
On n'est jamais seul, on ne marchera jamais seul, c'est ça.
Mais ce que fait le Real Madrid, moi j'entendais, ouais, c'est de la chance, ils sont moins bons qu'un tel, un tel. Mais quand tu es capable de le réaliser en 8e, en quart, en demi, alors que tu es censé être mort à une demi-heure de la fin, le hasard n'existe pas, c'est pas vrai. Il y a ce truc-là, le supplément d'âme qui fait que tu peux avoir 5 minutes où personne ne peut maîtriser ce qui se passe sur un terrain.
C'est ce qui s'est passé, le match Algérie-Cameroun aussi, 30 secondes, ou même 10 secondes. Voilà, c'est ça le charme du football, c'est des gens, c'est des émotions. C'est voilà, donc ça va nous faire rêver. On est encore je pense que ça fait plaisir à tout le monde et ça va faire vendre aussi pour les médias le fait de voir City et Liverpool se disputer le titre de la première ligue jusqu'à la dernière journée. Voir Liverpool jouer la finale quand le 29 mai pas loin de chez nous, on va dire Paris ou Saint-Denis.
Ah bah Saint-Denis.
On va dire
Saint-Denis le match.
Alors tant mieux pour les
Liverpool. Bah oui, mais c'est historiquement c'est génial.
Yannis le sait aussi.
Il peut
aura sa place avec Boula.
Certainement ils vont atterrir à Roissy, donc ça va être c'est pas Paris,
au Bourget.
Donc c'est le 93, ça va être la fête. Voilà, donc
c'est pas mal.
Donc
c'est pas mal.
Donc on va dire
le village olympique de Paris 2024 sera dans le 93 aussi. Oui, on en a parlé déjà de Titi Henry. Laisse-le tranquille en tout cas.
Je le titille pas.
Ouais.
Moi je pense, je voudrais pas déformer ses propos. À un moment ou à un autre, il va certainement expliquer le fond.
Allez, Yacine, la dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Ah mais c'est lui. Il fait comme ça pour la finale de la Champions League. J'ai bien peur pour Karim Benzema. Hein. C'est le réalisateur, il est comme... mais laisse tomber.
C'est pas un fan de Benzema.
Je sais pas, il est fan de quoi lui. Je crois que c'est
Ziyech.
Il est pas mal Ziyech aussi. 20h54, le coach Tolé, la fin de cette émission, après son incroyable
non
semaine.
Non plus, le coach Tolé n'est pas fan de Benzema.
Du côté
non plus,
de Madrid, où il a battu à la suite quand même, c'était fou. Samir, Rafael Nadal, Novak Djokovic, ou encore Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, et non pas Alcatraz comme on peut le voir. Oui, Alcaraz justement a décidé de zapper les Master 1000 de Rome, où il est attendu comme un empereur par un certain Novak Djokovic. Et non, il sera bien là, à 2 semaines du début de ce fameux Roland-Garros, les internationaux de France. C'est vrai que, allez, on tourne la page peut-être, Samir, le coach Tolé, ou encore Yacine. Djoko, Roger Federer, allez... On essaye Rafael Nadal. Il séjournera dans le même hôtel que Nadal à Paris lors des internationaux de France. Mais c'est vrai, ce talentueux jeune joueur espagnol, player quoi, incroyable. Ouais, un mot peut-être. Ça fait penser quand même que l'Espagne a une certaine Masia aussi, elle aussi, mais dans la planète du tennis.
Elle a toujours eu.
Ouais, elle a toujours eu. Ouais, c'est ça, il est d'accord. Samir. Alors Yacine.
Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein.
Ouais, un petit mot.
Les Espagnols ont toujours produit des. À l'image de la grande joueuse Arantxa Sánchez dans les années 90,
qui était pas mal.
Une joueuse exceptionnelle.
Voilà. Après moi, tu m'as ouvert une parenthèse sur le tennis. Moi, j'aimerais bien rendre un grand hommage
à
notre africaine,
l'internationale
tunisienne,
Onis
Jabeur, qui a
bien sûr.
C'est la première africaine.
Félicitations.
D'avoir
on en a parlé en début de semaine dans le JT Sport.
D'avoir gagné un titre de Grand Chelem, le tournoi de Madrid. Voilà. Ouais. Donc après, on va basculer sur Alcaraz.
Ouais.
Je pense que aujourd'hui, il y a une nouvelle page dans le monde du tennis qui s'ouvre. Voilà, donc on a vécu les années Djokovic, Nadal, et au jour d'aujourd'hui, je pense que quand on voit cet immense athlète sur un court, on se dit que je pense qu'il est, c'est le moment.
Il est suivi de près par Roger Federer justement, qui n'a pas manqué de voir toutes ses performances exceptionnelles durant la saison, et aussi il est prêt à l'inviter à sa fameuse compétition, la Lever Cup, dont la 5e édition aura lieu, je crois, du côté de Londres. Voilà, ça au moins c'est dit. Ouais.
Ouais, ça fait plaisir.
On note. On note bien.
On note, mais mon stylo ne marche pas.
Ah ouais.
On va noter.
Le mien, il marche bien.
Après,
de quand, aussi.
Quand on voit ces tennisman, ils viennent souvent des mêmes pays. On se pose la question, que fait l'immense continent qui est l'Afrique? Comment ça se fait qu'on est en 2022, on a de grands tennisman ou tenniswoman. Onis Jabeur, c'est l'exception, on va dire, qui ne confirme pas la règle. Mais malheureusement, s'il y a des responsables de confédération africaine ou de fédération africaine de tennis, je pense que les espaces existent en Afrique, les balles de tennis existent, les raquettes existent. Donc à un moment donné, il faut que au moins on arrive à sortir un peu la tête de l'eau.
Voilà, c'est Denis qui nous passait bien le bonjour à Yacine, au coach Tolé, sans oublier aussi Samir. Voilà, quatre grands Chelem, on a Paris, on a Londres, on a New York et l'Australie aussi. Voilà, on verra, on donnera les informations de près, de très très près, à l'approche du tournoi ATP de Rome, sans oublier aussi celui des internationaux de France, le tournoi du Grand Chelem. Oui, Yacine.
Et peut-être qu'un jour, on espère avoir un grand tournoi du Grand Chelem dans une grande capitale africaine.
Ça s'est arrêté à 4. Pourquoi pas? Sur le continent africain, un tournoi du Grand Chelem. Oui, va savoir. On ne sait pas.
Ouais. On espère.
T'as des pays qui ont moyen de.
Mais je ne dis pas le contraire.
Mais bon.
C'est juste après, il faut le faire accepter. Oui, tu sais, c'est comme après dans le règlement du football international, la fédération anglaise ou même après l'association de football.
Aujourd'hui, il y a par exemple Jamal Boudjemline qui est d'origine algérienne, qui était un grand champion de tennis aujourd'hui, qui est très très. C'est quelqu'un. Il a une académie aux États-Unis. Il a aussi un pied à terre à Monaco. Et il y a beaucoup de champions qui sont sortis. Ils sont sous sa coupe.
On y pense.
Onis Jabeur, elle est passée par l'académie de Gallou en Tunisie. Donc, je pense que.
Il y a de très grands joueurs.
Oui, un autre grand joueur. Malheureusement, ils n'ont pas pu.
Oui.
Ils n'ont pas pu percer à très 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 haut niveau. À un moment donné, le Maroc, comment il s'appelle,
Ayouli,
un très très grand joueur de tennis aussi. Voilà.
Ouais.
Donc, mais bon, ça reste des
Yannick Noah au Cameroun.
Ouais, oui, Yannick Noah. Pas faux, le côté tollé.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.